RFI, grand reportage.
C'est une femme formidable. Tout ce qu'elle a traversé, elle a ma plus grande dévotion. Nous n'aurons plus de monarque comme elle. Même les membres de la famille royale, ils ne feront jamais un aussi bon travail qu'elle.
C'est la femme la plus connue au monde, Elisabeth II, 70 ans de règne. Elle dirige la plus grande famille royale d'Europe et probablement de la planète. La souveraine aura vu des changements historiques depuis son accession au trône, décolonisation, indépendance à travers le Commonwealth. Alors que le règne de la monarque de 96 ans s'achève, la question de l'avenir se pose. Couronne britannique, quel futur entre tradition et modernité? Un grand reportage d'Emeline Vin.
Le drapeau britannique, l'Union Jack, recouvre les rues, les maisons, les magasins de la capitale. Nous sommes début juin 2022, Londres et le reste du Royaume-Uni célèbrent les 70 ans de règne d'Elisabeth II.
So I have my Union Jack shoes on.
Je porte des chaussures avec l'Union Jack. J'ai récupéré une couronne en papier et j'ai un drapeau autour des épaules. Je suis fin prête car Sa Majesté la Reine nous a guidé merveilleusement bien le pays, le Commonwealth et même le monde au cours de sa vie. Elle nous a tant donné qu'on doit la célébrer.
Sarah fait partie des 12 millions de personnes qui ont participé aux célébrations du jubilé. Au cours de ce long week-end de 4 jours, le pays a vécu au rythme de la royauté. Défilés militaires, services d'action de grâce, fêtes de rue. Cette décennie sur le trône, Elisabeth II reste une figure fédératrice en son royaume. On la célèbre de la maternelle aux maisons de retraite. Jennifer Potter ne tarit pas d'éloges sur sa souveraine.
Well, I think there are very few people who have served their country.
Je pense que très peu de gens ont servi leur pays avec autant d'assiduité pendant 70 années consécutives. Beaucoup pensent qu'être reine, c'est jouir de grands privilèges. C'est vrai en un sens. Mais cela implique de nombreuses responsabilités. Elle n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait. Ses journées sont entièrement organisées à l'avance, de son réveil à son coucher.
Every day is scripted for her, from the moment she gets up to the moment she goes to bed.
À ses côtés, Ronald a participé au couronnement en 1953 alors qu'il faisait son service militaire.
C'est une femme formidable. Tout ce qu'elle a traversé, elle a ma plus grande dévotion. Nous n'aurons plus de monarque comme elle. Même les membres de la famille royale, ils ne feront jamais un aussi bon travail qu'elle.
Digne, respectueuse, drôle, humble, la reine suscite une liste sans fin de compliments.
Go Queenie!
Au-delà de la personne, et malgré des dernières années compliquées entre Brexit, crise politique et pandémie, Elisabeth II représente aussi l'union d'un royaume.
Everyone flags going and they just feel the kind of...
Tout le monde agite des drapeaux, vous ressentez vraiment cette fierté d'être britannique. Je suis un grand fan de football et c'est la même atmosphère que pendant l'Euro 2020. Tout le monde était surexcité, hyper fier du Royaume-Uni. C'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, rien ne peut mal se passer, on ne va perdre aucun match.
Nothing can go wrong today. We're not going to lose the game.
Le clou de ce week-end de jubilé, un spectacle de drones au-dessus de Buckingham, achevé par les mots « Merci Madame » en étoile robotique dans la nuit londonienne. Merci pour votre règne. Sa Majesté fait l'unanimité parmi ses sujets. Isabelle Kirk suit l'évolution de l'opinion publique sur la monarchie pour l'Institut de sondage YouGov.
La reine est très très populaire. Depuis que nous suivons cette question, le soutien du public oscille entre 80 et 90%. En ce moment, 8 personnes sur 10 ont une opinion positive de la reine. Même les Britanniques républicains trouvent qu'elle fait du bon travail. Même eux ont une opinion positive de la reine en tant que personne.
Quant à la couronne, en tant qu'institution, près de 6 Britanniques sur 10 considèrent qu'il s'agit d'un atout pour le pays. Pour Michael et Sylvia, couple de septuagénaires venus acclamer la famille royale devant la cathédrale Saint-Paul, La couronne, c'est la continuité de l'État.
Vous, les Français, vous avez un président, non? Et c'est un politicien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est dans la Constitution. Les politiciens d'une part, le monarque de l'autre, les premiers ministres, ça va, ça vient. La reine, elle, elle reste.
Quant à Matthew, fervent royaliste, il estime qu'il ne peut y avoir de patriotisme sans monarchie.
Grâce à la monarchie, nous savons qui sera notre chef d'État dans les décennies à venir. Les républiques ne peuvent pas faire ça. Elles ne savent qui les dirigera dans 10 ans. Dès lors, elles n'ont pas de trajectoire définie dans l'histoire. Comment peuvent-elles avoir foi en l'avenir?
Pendant les fêtes du jubilé, il est facile de se laisser prendre par la fièvre nationale et de se sentir royaliste. Mais Isabelle Kirk de YouGov note tout de même une érosion, moins 13 points en 10 ans, portée par le changement démographique.
Le déclin est en lien avec les plus jeunes, qui se détournent de la monarchie depuis 10 ans. Quand YouGov a commencé ses relevés en 2011, 59% des 18-24 ans, 6 jeunes sur 10, pensaient que la monarchie devait continuer. Cela a diminué de moitié. Aujourd'hui, seuls 33% des jeunes pensent que la monarchie doit continuer. Le déclin du soutien est vraiment visible parmi la jeune génération.
Le soutien à l'institution monarchique dépend aussi beaucoup du bord politique, les conservateurs étant plus favorables à son maintien que les travaillistes, les moins enthousiastes étant souvent plus indifférents qu'opposés véritablement au régime. Le travail de la famille royale en faveur des organisations caritatives est régulièrement rappelé. Autre argument largement avancé par les défenseurs de la couronne, les revenus touristiques engendrés par l'institution, la firme, comme on l'appelle ici. La preuve avec les millions de personnes dans les rues de Londres pour le jubilé, Will, vêtu de la tête aux pieds des couleurs nationales.
La famille royale amène tellement de touristes dans le pays. Et quand vous voyez ça, ça ne peut être qu'une bonne chose, non?
D'ailleurs, aucun magasin de souvenirs ne fait l'impasse sur son rayon dédié à Elisabeth II et sa famille. Dans certaines villes, c'est même la base de l'écosystème, à Windsor par exemple, où la reine désormais réside de manière permanente. À Ginseng sans doute tient l'un des plus vieux magasins de souvenirs de la cité médiévale.
Des cuillères, on est quasiment en rupture de stock, des boîtes en métal, du thé spécial jubilé, des assiettes commémoratives, des figurines, des mugs. La reine est vraiment bonne pour les affaires. Les magasins de cette ville ne fonctionnent que grâce à la famille royale. Sans elle, nous mettrions la clé sous la porte.
If the royal family is not in town, I don't think we will be here.
C'est une part importante de notre offre à l'international, un sujet de fascination pour beaucoup de marchés et un point de démarcation pour nous.
Patricia Yates dirige l'organisme de promotion touristique Visit Britain.
L'histoire et le patrimoine sont les principales motivations des touristes internationaux. Avant le Covid, cela représentait 28 milliards de livres, à peu près donc 30 milliards d'euros. Mais il est impossible de distinguer les touristes qui viennent pour la royauté et ceux qui viennent pour le reste de notre histoire et de notre patrimoine.
Pour les militants anti-monarchie, l'argument touristique ne tient pas. Les monuments historiques resteraient visitables dans une république britannique. Pour Patricia Yates, l'attrait tient autant aux bâtiments qu'aux royaux eux-mêmes.
Quand vous vous promenez dans Londres, vous voyez les voitures royales qui circulent. Il y a toujours cet espoir de croiser leur route. On espère toujours un peu, non? Avant que les princes ne se marient, il y avait un grand intérêt chez les Américains et les Chinois. Car en plus, ces princes faisaient la fête dans des boîtes ouvertes au public. Vous auriez pu avoir de la chance, flûte. Mais encore aujourd'hui, les touristes demeurent intéressés par ce qu'ils font, où vont leurs enfants, par exemple.
En 2017, le cabinet de consultants Brand Finance estimait que la couronne britannique rapportait à l'État 1,76 milliard de livres par an, un peu plus de 2 milliards d'euros. La famille royale coûterait, elle, autour d'une livre sterling par contribuable et par année. C'est l'argent que le gouvernement lui verse tous les ans. Un chiffre contesté par le docteur Laura Clancy, lectrice en sociologie des médias à l'Université de Lancaster. Elle a publié un livre sur la gestion par la famille royale de son argent et de son image.
C'est bien plus que ça, car il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, lors des visites dans les petites villes ou les villages, c'est au conseil local de financer la visite. Et il y a d'autres choses impossibles à calculer. Si toutes les peintures, tout l'art que possède la couronne, si toutes ces terres étaient rendues à l'État, comment voulez-vous savoir ce que cela rapporterait ?
La chercheuse spécialisée dans les inégalités estime que la continuation de la monarchie britannique entrave la lutte contre les discriminations.
Il y a des problèmes de classe et d'inégalité dans la famille royale. C'est un système d'acceptance sociale générale que certaines personnes valent plus que d'autres. Il y a des problèmes autour de l'identité nationale et de qui la représente. La famille est très blanche, très classe supérieure. Elle est d'ailleurs plus anglaise que britannique. En Écosse, par exemple, les gens n'ont pas du tout la même relation à la famille royale. C'est une institution encore très patriarcale, avec cette idée que les femmes doivent avoir des enfants afin de pérenniser l'institution. Ce n'est pas parce qu'elle est dirigée par une femme qu'elle est féministe.
Cependant, Laura Clancy refuse de qualifier la monarchie de datée ou d'archaïque. C'est précisément parce qu'elle s'est adaptée qu'elle a survécu, aidée, selon elle, par une couverture médiatique archi-favorable au cours de la majorité des 70 dernières années. 70 ans de règne, c'est du jamais vu à Buckingham. Ce jubilé, c'est l'occasion de remercier la souveraine et aussi pour certains de s'interroger sur la suite, l'après-Elisabeth II. Dans les rangs des spectateurs, il y a deux camps. D'un côté, le fils, Charles, de l'autre, le petit-fils, William.
J'aime bien Charlie. Il est très empathique.
Ce sera un bon roi.
Il parle à ses plantes, vous savez. Quelle meilleure personne pour prendre la relève.
Je n'ai rien contre Charles, mais...
Il a 73 ans pour commencer un travail. Comment voulez-vous faire ?
Il est vieux, il a 73 ans. Bon, j'ai 73 ans, je ne sers plus à rien. Malgré tout, je l'aimerais et le respecterais. Mais la reine a ce quelque chose pour régner que je crois que William et Kate ont aussi.
William touchera mieux la jeune génération. J'ai 19 ans et je préférerais que William soit roi. Il me paraît plus abordable. Je crois que ma génération est plus anti-monarchiste, mais William fera plus pour ma génération.
Charles ou William, la question est loin d'être anecdotique. Les sondeurs de YouGov et Isabelle Kirk suivent l'opinion à ce sujet depuis 2011. Un tiers des Britanniques pensent que Charles devrait hériter de la couronne, un tiers qu'elle devrait aller directement à William, mais...
William est typiquement plus populaire que Charles. 77%, soit les trois quarts de la population, pensent que William fera du bon travail, comparé à 56% pour le prince Charles. C'est certes une majorité, mais William inspire davantage la confiance que Charles.
William possède également un atout, son épouse Kate Middleton, devenue une icône de mode, tandis que Camilla, avec qui Charles s'est marié en 2005, souffre encore parfois de la comparaison avec Diana. Mais qu'il s'agisse d'un roi Charles ou d'un roi William, le futur souverain aura beaucoup à faire pour régaler Elisabeth II.
I think Catherine will be able to do the glamour.
Je crois que pour ce qui est du glamour, il faudra compter sur Kate. Mais je ne sais pas. La reine, c'est la tradition, le service à la nation, la permanence. Les choses vont forcément changer. Je suis complètement fan de la reine, pas tant des autres. C'est horrible à dire à voix haute. C'est sûr que ce sera très différent, mais ce sera intéressant à voir.
Le prince de Galles ne devrait pas renoncer à la couronne en faveur de son fils. Ce serait inédit dans l'histoire des Windsor. En février dernier, le palais a d'ailleurs annoncé que son épouse Camilla serait reine consort et pas princesse ou duchesse, comme cela était jusqu'ici attendu.
Your Majesty. Mommy.
Bob Jobson suit la famille royale depuis des années pour de grands journaux britanniques ou américains. Auteur de biographies de plusieurs membres de la firme, il estime que l'héritier de la couronne ne sera qu'un roi de transition avant la monarchie du futur.
Nous sommes déjà en transition. Nous avons une monarque très âgée qui tient encore les rênes. Nous avons son héritier, qui a plus de 70 ans, et William, l'héritier de celui-ci. Et tous sont adultes et donnent leur avis quant à la direction future de la monarchie. Charles sera le plus vieil homme à devenir roi. Et je crois que le prince William, quand il deviendra l'héritier direct, compte mettre ce temps à profit pour faire des choses. L'environnement, notamment, lui tient à cœur.
L'avenir de la couronne se joue aussi dans les pays du Commonwealth. La Barbade a récemment renoncé à la reine comme chef d'État. Le débat se pose dans certains autres des 54 pays restants, des pays que Rob Jobson a souvent visités en tant que correspondant royal.
Tout le monde aurait pensé que la Jamaïque serait déjà partie. Mais dans les grands pays, au Canada, en Australie, il n'y a pas d'appétit pour le changement. Regardez les sondages. Ce n'est pas leur principale préoccupation. Peut-être en Nouvelle-Zélande, et surtout dans les plus petits pays. Mais cela dépend énormément du soutien financier du Royaume-Uni.
Mais il ne croit pas à un effondrement du Commonwealth.
Quand William accédera au trône, ce sera une monarchie réduite, mais pas forcément en termes d'influence dans les pays du Commonwealth.
De retour en Grande-Bretagne, il serait entre 20 et 27% à souhaiter la fin de la monarchie. Graham Smith est le PDG du groupe de pression République, qui, comme son nom l'indique, œuvre pour l'abolition de la royauté.
Personne ne devrait rester indéfiniment à la tête d'un pays. C'est en général le signe que quelque chose ne va pas. Et dans ce pays, on célèbre cela. Nous proposons une république parlementaire, comme en Irlande ou en Allemagne, se débarrasser de la Chambre des Lords et la remplacer par un parlement entièrement élu, abolir la monarchie, la remplacer par un président qui ne prendrait pas de décision politique, mais qui aurait un rôle constitutionnel. Et c'est tout à fait faisable.
Le pays devrait probablement changer de nom. République propose union de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Le premier obstacle, Graham Smith l'admet, c'est la bataille de l'opinion. À part les militants de République, peu de Britanniques disent vouloir changer de régime. La plupart de ceux qui n'ont pas fêté le jubilé sont, comme Simon, indifférents.
Je n'ai aucune relation avec la couronne. En ce qui me concerne, ils vivent dans un autre monde que le mien. Il n'y a aucune critique, certainement pas envers la reine. Je trouve qu'elle fait très bien son travail. Mais en tant qu'institution, je ne suis pas anti-monarchiste, mais je m'en fiche.
Et alors, vous seriez favorable à une république britannique ?
Oui, probablement. Je n'ai pas de fortes convictions à ce sujet, mais oui, j'imagine.
Militant depuis l'adolescence, Graham Smith vient de lancer une campagne pour faire d'Elisabeth II la dernière reine britannique et profiter de la succession pour lancer le débat républicain.
Ce sera le premier couronnement dont la plupart d'entre nous sera témoin ou pourra se souvenir. Pour la plupart des gens, la reine est la monarchie, et la monarchie, c'est la reine. Que vous l'aimiez ou pas, c'est comme ça. Mais tout d'un coup, si elle n'est plus là et que Charles prend le relais, sans discussion, sans qu'on ait l'opportunité de choisir qui nous voulons, je crois que cela va secouer beaucoup de monde. Et cela va engendrer un débat comme il n'y en a jamais eu.
Le couronnement du roi Charles n'aura lieu que plusieurs mois, au moins après le décès d'Elisabeth II. Protocole, période de deuil oblige. Sa Majesté possède le deuxième règne le plus long de l'histoire mondiale, à 2 ans du record de Louis XIV.
Couronne britannique, quel futur entre tradition et modernité ? Un grand reportage d'Emeline Vin, réalisation Eva Piedel.